Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous accueillir pour cette foire aux questions en ce beau mercredi 21 février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à découvrir cette guitare mystère dont vous apercevez juste un petit bout de corps là et un petit bout de tête ici. Et vous allez aussi découvrir un ampli, voilà, dont vous découvrez juste un tout petit bout ici. Hein. Ça ne vous donne pas beaucoup d'indications, hein, mais vous allez la découvrir et l'ampli. La guitare dans quelques instants. Allez, sans plus attendre, je vous la montre. Voilà. Tadam ! Voilà la belle guitare. C'est une guitare qui m'a été gentiment prêtée. Voilà, j'essaie de vous la faire rentrer tout entier dans le cadre. Par Yann Viette, donc un musicien de jazz français que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois, dont une fois tout récemment avec Nina Guetta pour un projet plutôt chanson jazz. Et il s'est fait faire une guitare par Didier Dubosc, voilà, un luthier qu'on connaît bien sur la chaîne guitare, puisque c'est chez lui que j'ai fait les premières chroniques lutherie, ou en tout cas parmi les premières chroniques lutherie il y a quasiment 10 ans, enfin oui, il y a même 10 ans, on peut le dire. Voilà, je fais un petit coup de pub pour Didier qui n'a pas vraiment besoin, parce que Didier Dubosc, c'est un luthier qui a son magasin Eden Lutherie qui est maintenant installé à Versailles. Il était il y a très longtemps à Villemomble, il a été à Saint-Cloud pendant quelques mois, je crois, et là maintenant il est établi à Versailles depuis un moment. Voilà, le Yann Viette en question, c'est lui là, il était venu avec son complice Olivier Soubéran qui joue du violoncelle et de la basse. On avait passé un chouette moment ensemble. Donc, eh ben, écoutez, sans plus attendre, du coup, je vous ai tellement parlé de la guitare que je vous ai pas parlé de l'ampli qui est à côté de moi. Il s'agit du nouveau Blackstar ID Core V4. Ils sont toujours des références un petit peu étranges. Le voilà. Donc, c'est un ampli relativement petit format. Vous voyez, par rapport à ma grande paluche ici, c'est un ampli plutôt de pratique. Alors, il fait 40 watts, donc on a quand même pas mal de volume. C'est toute la modélisation et j'en ferai évidemment un test complet, mais plutôt que des grands discours, je me propose de vous en faire une petite démonstration. Et donc avec cette jolie guitare du luthier Didier Dubosc, c'est parti. Thank you. Voilà, on va arrêter ce petit massacre de On Broadway, ce morceau. Je ne sais pas s'il est de George Benson, mais en tout cas, c'est lui qui l'a rendu célèbre. Voilà, donc, une Telecaster, mais complètement revisité avec trois micros, deux micros, Lollar, Charlie Christian, qui sonne super bien. J'étais essentiellement dessus, sur celui-là et sur celui-là. Un micro, je pense que c'est un Little 59 de Seymour Duncan qui est en bridge, il faudra que je vérifie. Et puis, une petite électronique qui permet d'ajouter dans n'importe quelle position le micro chevalet. Ce qui fait que quand vous êtes ici, je vais vous le faire écouter dans un instant, si vous êtes sur une config de Strat standard, vous pouvez pas avoir les deux micros posés, mais là vous pouvez avec ce petit réglage. Vous pouvez écouter ça, tiens, avant qu'on attaque les nouvelles. Donc là je suis sur le micro manche. Je vais enlever le micro pour que vous ayez que le son de la guitare, bien sûr. Voilà, ce qui permet d'obtenir les deux micros opposés, ce qui est un son typique Telecaster, qu'on n'a pas évidemment si on garde juste le switch 6 positions. Et ça permet d'avoir sur cette position-là où on a ces micros, en haut on a que comme ça, et en bas on a les trois micros ensemble. Je vous fais écouter ça, donc là d'abord celui-là et ensuite les trois micros. Voilà, c'est un petit peu moins convaincant, je trouve, sur la position où on a les trois micros ensemble. On pourrait se dire, ah ouais, je mettais trois micros ensemble, ça va être terrible. En fait, je trouve pas ça hyper... Le son est pas hyper distinctif. Alors que quand on est ici, sur ce micro manche, et qu'on ajoute le micro au chevalet, là, définitivement, il se passe quelque chose. Et je dis bonsoir, donc, à ceux qui sont ici. Salut Vincent, salut Louis, salut Guillaume, qui nous confirme... Oui, je savais bien que Guillaume donc de Blue Cat, il met ce genre de switch sur beaucoup de ses guitares à 3 micros, c'est vraiment super, voilà. Et c'est vrai que ça fonctionne pas mal. Je crois que c'est David Gilmour, je crois, sur ses strats, qui a beaucoup cette modification aussi. Donc moi, je trouve ça très cool. En tout cas, merci beaucoup à Yann de m'avoir confié cette guitare qui viendra chercher très bientôt. J'en ai enregistré un test complet que je vous proposerai très bientôt à la publication. Voilà, corps en soin patch, finition nitro, un peu mi-satinée, mi-brillante, voilà, on n'arrive pas trop aussi, on arrive un peu à la faire briller. Voilà, manche en érable, une belle touche en Rio, j'essaie de vous la remontrer par là, là. Hop, je te file un coup dans le micro, c'est moche. Voilà. Ouais, c'est pas évident de montrer le beau palissandre. En tout cas, il a toujours des très beaux bois, l'ami Didier, qu'on salue au passage des fois qui tombe sur ce live. Voilà, allez, je repose la guitare et on va enchaîner évidemment sur les nouvelles, parce que là vous n'êtes pas sans savoir que j'étais au NAMM il n'y a pas très longtemps, et comme j'ai fait 35 interviews au NAMM, et du coup tout ça il faut les publier, faut écrire les articles en français, en anglais, donc j'ai charbonné à mort. Donc alors je vais peut-être pas passer au travers de tous les articles, parce que sinon il va y en avoir beaucoup. J'ai oublié de faire un petit coup de pub à Blackstar, puisque c'est l'importateur français qui m'a envoyé ce ID Core V4 qui me l'a offert, pour être complètement transparent. Donc j'en ferai un test, là je vous le montre parce que je trouve que c'est un ampli qui est très sympa. Entre nous soit dit, j'ai pas été hyper convaincu par les sons saturés. Alors peut-être je les ai pas encore travaillés assez, mais de base je suis pas très convaincu, alors que sur les sons clairs je trouve que c'est vraiment pas mal. Et chose importante aussi à noter, c'est que l'ampli, vous voyez que ici là sur la, j'ai un câble USB-C là qui est ici, et l'ampli vous pouvez le piloter avec le logiciel Blackstar Architect, ce qui fait que quand ici je change les boutons, et ça change les réglages au niveau de du Blackstar, vous voyez ici là, c'est pas évident de le faire avec l'autre main, ici là le potard voice il change, et ça changerait évidemment tous les réglages, les effets qui sont activés, etc. Et ça, 40 watts pour 300 balles, je crois, un truc comme ça, un petit peu moins. Honnêtement, c'est fou les amplis, enfin la qualité du matériel qu'on a aujourd'hui, qu'on peut même pas qualifier de bas de gamme d'ailleurs, hein, parce qu'honnêtement, le son clair est bien. Et moi, c'est avant tout ça que je demande aux amplis. Sur les sons crunch, ça va encore. Sur les gros sons, d'habitude, je trouve ça marche plutôt bien. Là, j'étais un petit peu déçu, mais c'est peut-être parce que j'ai pas assez retravaillé avec l'ampli. Voilà, et donc s'il y a des backstagers parmi vous, vous savez que je fais régulièrement la tournée matos, on va en parler. Alors je vais pas envoyer cet ampli en tournée matos parce que ça coûterait un peu cher à faire expédier, mais si vous êtes abonné à la chaîne guitare et que vous avez envie d'emprunter cet ampli, et ben écoutez, il est à votre disposition au showroom intergalactique. Vous avez juste à me contacter et on organisera ça. Okay. Alors, dans la série, les grosses interviews que j'ai pu faire au NAM, il y avait avec l'excellent, le souriant Tomo Fujita, voilà, bien connu parce que ça a été un des profs historiques de John Mayer à Berkeley. Alors Tomo, je l'avais déjà fait en interview il y a quelques temps, mais c'était la première fois que je le rencontrais en vrai. Ah non, c'est pas vrai, je l'avais déjà rencontré au NAM en 2018, je crois, quelque chose comme ça. Et donc là, on s'était installé dehors, peinard, vous voyez, sous les palmiers, et on a fait une chouette interview de quasiment 20 minutes. Allez, on s'en écoute un petit bout. Ah oui, alors faut pas que je fasse ça tout de suite, faut d'abord que je déplace un petit jack. Parce que faut croire que j'ai pas encore assez d'entrée sur ma table de mixage, et voilà, pour que vous puissiez avoir du son. Allez, on écoute Tomo. Welcome to the Guitar Channel. I am super happy to welcome you a new interview. I am sitting right next accent. To the one and only Tomo Fujita.
Oh, what's checking going their on? Ears.
Exactly. What's going on? Okay. And then the trick is, when I go softer and softer, yeah. I can hear guitar behind me yeah. louder.
Yeah, yeah.
That's kind of funny.
Okay.
Then people watching me, no sound. You know what I mean? Why not? Yeah, for fun. Yeah. So that's it.
Tell me about One Control. Tell me about that brand.
Oh yeah. Well, I have been working with One Control about, you know, 4 or 5 years.
Yeah.
And basically a company is in Japan and the factory.
Bon, je vous laisse le soin d'aller écouter l'interview au complet. Moi, en tout cas, je me suis régalé. C'est un grand monsieur, je trouve, de la guitare. Forcément. Non, c'est pas forcé, mais c'est très très probable que vous connaissiez déjà ces vidéos parce qu'elles sont très très bien et très très bien faites. Donc, je ne peux que vous encourager à aller les voir. Et puis, quand on sait qu'il a été un des instigateurs de la carrière de John Mayer, en le sens où c'est ce qu'il raconte dans la vidéo, qu'il a dit non, mais écoute, là, c'est bon, je pense que t'as bien profité de Berkeley. Tu sais écrire des chansons, vas-y, lance-toi. Donc c'est quand même pas rien. Dans la série des autres interviews, alors ça je suis hyper content, regardez comment je suis fier comme un bar tabac là, sur cette photo, c'est quand j'ai reçu l'incroyable Denis Lable il y a quelques temps, je me suis pas dégonflé, et après l'interview, qui est d'ailleurs disponible en deux parties, on a fait une sorte de chronique de pédago surprise, donc je me suis retrouvé finalement à jammer avec Denis Lable. Donc on va s'en écouter un petit bout, tiens, voilà, allez, c'est parti.
Bonjour à tous et à toutes.
Je vais mettre le moment où ça jam un peu là.
Vous retrouvez sur la chaîne guitare pour...
Ça te va ça?
Allons-y.
Ouais.
Allons-y.
Allez,
voilà, je coupe les micros.
J'étais mort de trouille.
On verra bien où est-ce que ça nous mène.
Voilà, moi j'étais fier comme un bar tabac, je faisais une petite rythmique là en do 7 et puis le Denis Lable, il jammait par-dessus, donc ça c'était plutôt très sympa. Donc on a quand même tenu un quart d'heure, pas un quart d'heure à faire que des jams comme ça, l'idée c'était aussi qu'il me donne des clés justement pour improviser sur des one chord vamp comme ça, et ça tournait un peu à la discussion, savoir comment est-ce qu'il construisait ses solos, etc. Donc ça, c'était vraiment une chouette, une super rencontre. Et un vrai bonheur de rencontrer ce musicien et qui raconte son histoire, parce que C'est un peu un musicien de l'ombre parce qu'il a joué des années avec avec Francis Cabrel. Moi, c'est par Francis Cabrel que j'ai découvert. Mais avant ça, il avait joué avec France Gall, avec Michel Berger, avec le banc et l'arrière-banc. Donc hyper intéressant et hyper riche évidemment comme parcours. Et mon petit doigt me dit qu'on aura l'occasion de se recroiser avec Denis. Il y a aucun doute là-dessus. Je reviens au NAM, il y a eu une belle rencontre, ce musicien qui est ici, là, c'est Alan Hines, avec qui j'ai fait une nouvelle interview, j'avais déjà fait une interview chez lui, là on est chez lui, j'y suis allé donc avec mon acolyte Guillaume de Blue Cat Audio, que vous voyez ici, qui est d'ailleurs dans la chatroom, et puis après qu'on ait fait l'interview avec Alan, eh bien, il a lancé Blue Cat Audio, donc Axiom, pardon, de Blue Cat Audio, qu'on voit ici sur l'ordinateur de Alan. Moi j'étais là juste en tant que caméraman. Cette fois c'était Guillaume qui interagissait avec Alain pour lui faire découvrir le logiciel. Donc c'est une interview, une vidéo de, c'est pas une interview d'ailleurs, c'est une vidéo de que moi j'ai tournée avec mes petites mains, c'est moi qui tiens la caméra, mais c'est Guillaume qui a fait le montage et qui vous propose de découvrir comment Alan Hines justement découvre Axiom en direct. Donc on va pas se la passer parce que au complet parce que elle est sur la chaîne YouTube de Blue Cat, mais on s'en écoute un petit bout quand même. Là, allez.
So, would we look for some crunchy sound?
Okay.
I like them all. I keep going through them. But there's a.
Là encore, je vous laisse le soin d'aller découvrir cette vidéo parce que c'est hyper intéressant de voir un musicien du calibre de Alan Hines découvrir. Alors, il avait déjà joué avec des plugins. En tout cas, il utilisait des plugins parce que là, c'était dans sa session Logic. Des plugins guitare, je suis pas sûr qu'il en avait déjà utilisé. Donc, du coup, c'était marrant de le voir découvrir. Et puis qu'il aime bien parce que du coup, on a même fait deux autres vidéos. Une autre où il essaye les effets et une autre qui est à venir aussi où il essaye Acoufin qui permet de générer du feedback. Donc voilà, c'était un petit coup de pub pour mon copain Guillaume qui fait des super logiciels. Il y a eu quoi d'autre? Je reviens sur le NAM. Cette fois, c'était aussi une chouette rencontre du NAM avec le barbu et luneté Zach Broyles, voilà, de Mythos Pédale. Regardez ce beau regard amoureux que je jette sur la nouvelle Herculean Deluxe. Hein. Ça fait pas envie, ça. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que fait Mythos. Il y a quelques temps, j'avais fait tourner la Hephaestus, qui est une sorte de fuzz à un seul bouton. Et j'écoute beaucoup les podcasts qu'ils font, que je vous recommande chaudement. Alors il a Pedal Pushers, pardon, qui est le podcast de Mythos, mais il a aussi un podcast auquel il participe avec Rachel, le fameux YouTuber qui a, je sais plus, quelques centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, et ils font un podcast évidemment en anglais qui s'appelle Deep Tin Tone, dont je vous recommande l'écoute. Et donc bah voilà, Mythos. Allez, on va peut-être avancer, sinon vous voyez, très intéressante, je me suis régalé, très très chouette contact, et probablement qu'on aura l'occasion de se revoir aussi. Je continue dans les grosses interviews du NAM. Donc là, c'était un des chouettes moments du NAM, c'est quand Corey Wong, ici présent sur la droite, jam avec la coqueluche du NAM 2024 qui était Matteo Mancuso. Et après cette jam, et ben on a fait un petit bout d'interview. Allez, on s'en écoute un bout.
I am standing right next to the one only Matteo Mancuso, who is definitely one of the big stars of this NAM show. So how does it feel, Matteo?
Well, it feels amazing. Yeah, it's definitely one of the greatest NAM show I ever been in. So yeah.
Yeah.
It's my third one, but okay. It's by far the most greatest one.
Yeah. Is there?
Il y a clairement eu un avant et après l'interview de Rick Vietto pour Matteo Mancuso, hein, parce que il était déjà très très connu, très en vogue avant, mais je pense l'interview de chez Rick Vietto, dont je vous recommande l'écoute, ça vaut vraiment le coup d'aller écouter ça. Voilà, je jette un petit coup d'œil dans la chatroom pour vérifier que je suis pas en train de, d'oublier des choses. Il y a Sandra qui est là. Salut Sandra, comment est-ce que ça va, Sandra? Et Guillaume qui nous parle là, je reviens sur l'histoire des configurateurs 3 micros. Effectivement, les micros 3 en même temps, c'est rarement très utile. Je crois que Corey Wong utilise ça pour avoir un son encore plus creusé en rythmique funk. Ah, bah tiens, je savais pas. Je pensais qu'il était plutôt sur la position 4, donc la position micro-manche, micro-centrale. Mais c'est vrai que quand on met les 3 micros ensemble, c'est comme si on avait les 2 positions intermédiaires en même temps, donc, hein, puisqu'on a les 3 micros. Ça a un certain sens. Effectivement. On continue les articles. Un chouette musicien, voilà, Fred Schneider, là il a l'air très très sérieux, mais c'est un bassiste et un mec d'arabe que j'avais découvert à Issoudun. Alors je sais plus en quelle année, mais il avait fait un buff mémorable avec Brice Delage. Et là il était sur le stand de Fibénaré, là c'est luthier hongrois qui font des superbes basses et des superbes guitares. Et donc, et ben, on a fait un petit bout d'interview. Allez, on s'écoute le Fred là.
Je suis à côté de Frédéric Schneider, un des trop rares musiciens français présents au NAM. Frédéric, comment est-ce que ça va dans ce jour numéro 2 du NAM ?
Très très bien.
Très bien.
Ouais, c'est une belle journée qui commence, ça fait plaisir quoi, oui.
Excellent.
C'est le retour au NAM pour moi, parce que ça fait 4 ans que je n'y ai pas mis les pieds.
D'accord.
Depuis la pandémie.
Ouais,
voilà, et ça fait plaisir de retrouver les amis.
Et j'ai cru voir sur Facebook que tu allais te promener un petit peu en Californie, etc.
On a déjà fait le road trip là.
D'accord.
Voilà. Je vais avancer juste un petit peu pour aller au moment où on l'entend un petit peu jouer. Alors c'est dans les configurations du NAM, c'est-à-dire que c'était très bruyant. Je pense que j'ai mis une petite séquence à la fin où on le voit jouer. On écoute ça. Allez, zou. Bon, c'est hyper bruyant, hein. Voilà, Fred Schneider, un nom à retenir parce que c'est un super musicien, adorable et qui touche sa bille grave. Voilà, on parlait de Guillaume tout à l'heure, et on en reparle encore. Regardez la taille de son stand. En fait, c'est pas tout à fait la taille de son stand. Il y avait un méga écran au-dessus et Guillaume, il avait un stand en dessous. Et évidemment, comme chaque année, on a fait une interview pour découvrir un peu quelles étaient les nouveautés chez Blue Cat Audio. Donc il y avait 3 nouveautés. La grosse nouveauté, c'était Fade Europe, ce logiciel qui permet qui vous propose une table de mixage à travers le réseau. La deuxième nouveauté plutôt catégorie effet, c'est Spinal Vibe, qui est une sorte de qu'on appellerait ça de Univibe sous stéroïde. Et enfin FreeSeaver, qui est un logiciel gratuit qui permet de fonctionner soit avec Connector, soit avec Fade Europe. Donc allez regarder, parce que c'est à ma connaissance le seul français qui était présent là-bas avec du logiciel, je crois bien. Guillaume, tu me détromperas puisque tu es dans la chatroom. Et puis il fait des chouettes softs, et puis c'est un copain, donc voilà, forcément c'est pas désagréable de parler de gens qui font des chouettes choses et qui sont des copains. Interview de bassiste, ça c'était la suite et la fin de l'interview avec Gilles Coquard, bassiste que j'ai découvert via Yannick Robert, puisque c'est le bassiste qui joue avec dans le trio Soul Cages de Yannick Robert. Donc on avait fait une longue interview avec plein de choses dedans, de la basse, etc. Donc allez écouter ça, c'est franchement très bien. Là, ça c'était lors d'un zoom, puisque j'ai fait une interview avec les organisateurs du Mix Academy. Voilà, le Mix, c'est ce salon où je suis allé, dont j'ai fait les 2 premières éditions. Donc il y a un salon et un festival où il y a des concerts, donc il y a des luthiers qui exposent, etc. Et cette année, il lance la Mix Academy, donc qui permet d'aller prendre des cours et puis de suivre un stage. Voilà, je suis en train de chercher mes mots pour voir les. Oh là là, j'arrive plus à parler. Faire des progrès, donc soit en guitare classique, soit en guitare fingerstyle, soit en guitare rock. Voilà, je suis arrivé à le dire correctement. Et pour avoir des informations, eh bien, je vous renvoie donc vers cette interview que j'ai mis en accès libre. Hein, donc vous n'avez même pas besoin d'être abonné. Et vous aurez comme ça toutes les informations sur ce stage qui se déroulera donc les 5 jours avant du lundi au vendredi 20 je sais plus combien avril C'est ici, pardon, du 22 au 26, voilà. Et 26, 27, 28, c'est donc le vendredi, samedi, dimanche, c'est le mix qui prend le relais, donc la partie spécifiquement salon, où votre serviteur aura le plaisir d'être, évidemment, pour couvrir l'événement à nouveau, parce que c'est un chouette salon et avec qui où je me suis très bien entendu avec toute l'équipe. On retourne aux NAM avec un chevelu, voilà, Tom Quayle, que j'ai interviewé plusieurs fois, et là on avait fait un petit update que j'ai mis en accès libre d'ailleurs, qui est disponible sur la chaîne YouTube de la chaîne Guitare, voilà, où il raconte les nouvelles, ses projets en cours, donc et voilà, toujours souriant. Il a sorti une application pédago qui s'appelle Solo, qui est disponible sur des applications mobiles, alors moi que j'ai pas testé, mais sur lequel visiblement il a mis beaucoup d'énergie. Donc on enchaîne, la Blues Breaker, c'était un des tests matos, voilà, pédale ô combien légendaire, remis un peu au goût du jour par John Mayer, pas hyper cher, ils ont fait une reissue, ils ont le bon goût de pas la mettre à watt 1000 balles, donc elle est à 150 je crois, quelque chose comme ça. Honnêtement, super pédale, on s'en écoute un petit bout. Allez, on s'en écoute un petit bout, je vais essayer de trouver une séquence où il y a du jeu.
Bonjour à tous et à toutes, je suis
ravi. Oui,
ravisant.
Ça c'est le blabla. Ah voilà. Ça sonne hein, quand même. Hein. Voilà. Bah, je sais pas pourquoi je dis quand même. Donc là, j'étais avec ma Strat sur le Kelt et avec juste le... Non, je crois que c'était avec le F-Type d'ailleurs. Je sais plus. C'était avec quel ampli, ben, je sais plus ce que je l'ai marqué dans l'article. Non, je vais le lire au début. Donc voilà, chouette pédale. Allez-y. Alors c'est pas gros gain quand même. Hein. Donc allez-y. Pensez pas faire du métal avec ça quand même, parce que c'est pas du tout le cas. On continue les interviews du NAM. Il y a eu deux fabricants de pédales que j'ai rencontrés. Ça, c'est que je me trompe pas, c'est Christos, le fabricant, le fondeur de Crazy Tube Circuit. Voilà, on a fait une longue interview où il raconte un peu son parcours, etc. Et dans la série Les Fondus de la pédale, il y avait Felipe Pampuri. Alors là, lui, c'est l'éminence grise, le fondateur de Beatronic. Vous connaissez forcément ces pédales au look complètement barré, il fait des fuzz et compagnie. Et là aussi, pareil, chouette interview pour découvrir son parcours. Donc ça fait partie des histoires qui sont assez marrantes au NAM, de rencontrer les gens qui sont des vrais, qui sont à l'origine des marques qu'on ne voit que à travers YouTube, évidemment. Voilà, au NAM, on croise des gens super connus, puis des gens moins connus. Ça, c'est Christian, un de mes abonnés, qui donnait un coup de main sur le stand de Cortex et de Paul Lera. Et donc, voilà, c'est un petit témoignage, voilà, un abonné de la chaîne Guitare au NAM. Allez, on s'en écoute un petit bout.
Je suis à côté de Chris qui vient donner un coup de main à Pierre Camilleri de Cortex et aussi à Paul Lera. Donc Chris, comment se passe ce NAM 2024 pour toi?
Bah écoute, très très belle édition. Bon, comme tu as pu le constater, comme tu l'as dit dans différentes interviews, il y a un peu moins de monde qu'avant, mais ouais. On ressent quand même une belle émulation. Et comme tu vas pouvoir découvrir, on a d'excellents instruments sur le stand et les futurs clients potentiels sont absolument ravis qu'on soit là encore cette année. Donc je t'en dirai peut-être plus à la fin du NAM. On va pas spéculer, mais je pense que ça se profile bien.
D'accord, ouais, vraiment. Très bien. Dis-moi, toi tu viens ici là pour donner un coup de main
Absolument, moi je gère un peu tous les petits coups de bourre. Donc il faut aller à droite à gauche s'il manque un peu. S'il nous manque par exemple un truc tout bête, ça peut arriver que des piles soient mortes. Il faut vite en trouver pour continuer à ce que les instruments fonctionnent correctement.
Ah ouais.
Enfin ça c'est des détails hein, par exemple. Hein. Et sinon je repère aussi les grosses pointures. Paul il est peut-être pas forcément au courant, mais moi je connais bien les musiciens en général et j'ai une bonne mémoire, donc j'essaie de les ramener sur notre stand.
T'as le radar qui est activé et c'est toi qui vas chasser les gens.
Absolument,
quoi.
Absolument. L'avion de chasse c'est moi.
Très bien, et tu as eu le bon goût de t'abonner à la chaîne Guitare il y a déjà quelques mois, alors, hein, c'est ça?
Écoute, je vais être sincère, je te connaissais pas avant,
ouais.
Mais franchement, les contenus, et j'en profite, hein, je suis à côté de toi, j'ai pas été payé, je vous assure.
On n'a pas répété avant, mais vas-y, ça commence bien là, vas-y. croisés.
Les contenus sont géniaux parce que Pierre débrousse tout pour nous. Donc on a juste à allumer notre laptop ou notre téléphone pour voir tous les meilleurs contenus, tout ce qu'il a pu trouver, tout ce qui est nouveau. Et bien on se gave avec tout ça. Formidable.
On croirait que tu l'as répété, ah, pas du tout.
Non,
quoi.
J'ai pas été corrompu, hein, c'est vraiment sincère.
Mais non, il paye en plus, il paye son abonnement, hein, c'est un truc de fou quoi. Absolument. Alors dis-moi, là, comme ça, sans réfléchir.
Voilà, évidemment, il fallait que je vous laisse passer ce petit témoignage. Donc j'étais très content de croiser Chris. On s'est revu après, par la suite. Il a confirmé en fait son pressentiment qui était ici, parce qu'il en a fait quand même beaucoup des NAM. Et il trouvait, comme moi j'ai eu l'occasion de le dire dans mon débrief la semaine dernière, que c'était une excellente édition, très riche, avec plein de choses, donc une belle dynamique. Et là, depuis que je suis rentré, j'ai pas mal écouté beaucoup de podcasts. Bah, je vous parlais de celui de Rachel et puis de Zach Broyles, donc Deep in Tone. J'ai écouté 60 Cycle Hum, j'ai écouté The Chairman, là où il y a Maison Marangella, de Vertex, etc. Et le sentiment général est que c'était un vrai rebond du NAM versus les deux éditions précédentes qui étaient un peu celle de l'année dernière en avril, celle d'avant encore en juin, qui était un petit peu étonnante. Là, il y a un vrai retour et visiblement les gens sont bien contents, et donc ça s'est clairement retraduit, vous l'avez encore entendu ici. Encore un autre article, cette fois avec Carnum. Voilà la célèbre, enfin célèbre, je sais pas si célèbre que ça, mais en tout cas relativement récente marque française, Cocorico, qui avait un très très beau stand. Et c'est un peu mon, non pas mon cheval de bataille, mais en tout cas un de mes pet peeves, comme on dit en anglais, un des sujets sur lequel je reviens très souvent. En général, quand on met dans la même phrase innovation et guitare, moi je rigole un peu doucement parce que honnêtement, il n'y a pas vraiment d'innovation dans la guitare, que ça soit je parle de l'instrument lui-même, et même dans l'équipement, les pédales sont à peu près gaulées pareil qu'il y a des dizaines et dizaines d'années. Les amplis, on a des choses maintenant qui sont numériques, voilà, comme le Blackstar, où il y a des choses qui se faisaient pas il y a encore pas si longtemps, mais sinon le matos qu'on utilise aujourd'hui, en tout cas qu'on aime utiliser beaucoup, c'est-à-dire que les vieilles guitare, etc., c'est de la vieille techno. Donc du coup, quand on parle d'innovation de guitare, en général, je m'appuie sur l'analyse que j'ai pu faire du marché, que bah il n'y a pas tellement de marché pour des produits très innovants, quoi. Je vous mets au défi, par exemple, de me citer des innovations guitare qui datent de ces 20 dernières années. Eh ben écoutez, moi, j'en connais pas des masses, quoi. Moi, je mettrais le Floyd Rose, mais ça date de la fin des années 70. Les manches carbone ou carbone, bon, mais ça date aussi il y a très longtemps. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans la guitare? Tout ce qui est électronique embarquée, ça, il y en a presque plus maintenant, ça a disparu. Le fan fret, c'est un système qui existe depuis très très longtemps, donc qui a été remis au goût du jour. Il y a le trou tempérament, mais là le fan fret, le trou tempérament, c'est par exemple des systèmes hyper niche qu'on voit très très peu. Donc quand j'entends des fabricants petits ou gros de guitares, de pédales ou d'ampli dire ouais, nous on fait de l'innovation, tati tata, what million d'années de R&D, en général je me gondole un peu, et malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'ai raison, puisque le marché n'est pas là. Néanmoins, toute cette longue introduction pour dire que au contraire, Carnum, ils ont fait donc la Ridge, qui est la pédale blanche qui est ici, et la jaune qui est en dessous, qui est la version fuzz, qui est, alors c'est de l'analogique à l'intérieur, mais contrôlée, qu'on peut complètement contrôler par MIDI, etc. Et ils ont réussi à faire un produit qui fonctionne très bien. Alors l'intérieur, finalement, il n'y a pas vraiment d'innovation parce que c'est un circuit analogique, c'est juste qu'il est piloté de manière intelligente en numérique, et ça fonctionne bien. Et donc là, vous voyez Glenn Arzell à gauche et Julien Bitoun en train de jammer sur le salon, sur le très beau stand de Carnum. Allez, on s'écoute un petit bout de l'interview d'Anthony, maintenant que j'ai fait cette interview. Donc Anthony, qui est un des membres de l'équipe de Carnum.
Alors, au NAM Show, on est né à la fin de la journée, on se crie dans la figure, on est un peu sourd, mais on est content d'être là. Anthony de Carnum Worldwide Incorporated, comment ça se passe ce deuxième NAM?
Eh ben, ça se passe très bien, beaucoup de monde, beaucoup d'artistes aussi qui viennent sur notre stand, notamment Nick Jenison, Julien Bitoun qu'on a eu juste avant.
Yes.
Donc, beaucoup d'activités.
Bah, c'est bien ça.
Oui.
Comment tu le compares, ce NAM versus...
je fais un petit break aussi parce que là il n'a pas parlé de Joel Andres. Alors peut-être qu'il n'était pas encore passé quand on a fait cette interview, mais Joel Andres est passé sur le stand et il avait acheté une Ridge et là je pense qu'il est reparti avec une Moho et il trouve que c'est vachement bien, donc c'est plutôt cool quoi. Voilà, on continue un petit peu l'interview.
Celui de l'an dernier,
beaucoup plus intéressant en termes de relations. Les gens sont, y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus engagés. Ils viennent vraiment tester le matériel. On a aussi pas mal de gens qui ont entendu parler de nous depuis le mois d'avril. Donc beaucoup plus de retours au final sur ce qu'on fait. Et c'est
d'accord,
très intéressant.
Excellent. Alors on sait que la Carnum Ridge a pris tout le monde par surprise et il y a eu un quasiment raz-de-marée, enfin un buzz monumental. Et là vous avez sorti donc la Moho que vous aviez annoncée l'an dernier, mais elle n'était pas sortie encore.
C'est ça. L'année dernière on a présenté le prototype.
Voilà, on va avancer un petit peu. Je vais essayer de vous trouver un petit bout de jam, voilà, avec Glenn. Un petit peu de musique. Là encore, pris avec ma nouvelle DJI Pocket 3, là. Donc, dans l'ambiance ultra cosy du NAMM. Voilà, c'était bien sympa. Et petite parenthèse, le Julien, là, il joue une Les Paul Cherries, donc de Thierry Cereza, donc qui est la petite sœur de ma Les Paul. Moi aussi, j'en ai une Les Paul Cherries, donc Thierry était bien content parce que sa guitare était au NAMM. Voilà, donc c'est quand même classe. Et c'est une guitare qui appartient à Glenn, donc Glenn avait amené cette guitare. Donc plutôt sympa. Voilà. Et enfin, une petite dernière interview du NAMM, voilà, c'est avec l'excellent Antoine Dufour, qui est un virtuose de la guitare fingerstyle moderne, que j'avais déjà fait en interview. Il était venu ici, d'ailleurs, au showroom, il avait fait une interview guitare à la main, et là, il était là, et c'est un musicien voilà, qui a un talent fou, qui organise un festival de guitare dans son coin de Québec, à Assomption, je crois, où il faudra peut-être bien que j'aille traîner mes guêtres un de ces jours. Donc, en tout cas, je vous renvoie vers cet article. Et ça fait à peu près le tour sur tous les articles que j'ai publiés. Il y en a d'autres aussi. Il y a eu l'interview de Scott Anderson, l'interview de Romain Labaye, son bassiste, que vous retrouverez aussi sur la chaîne guitare avec avec la totalité des contenus, évidemment. La guitare démontable. Je jette un petit coup d'œil sur la chatroom. Vincent parle de la guitare démontable. Alors écoute, moi la guitare démontable, c'est pareil. Pour moi, ça fait partie des... Est-ce que c'est pas vraiment une innovation? Est-ce que ça existe depuis très très longtemps? Et moi, toutes les guitares démontables qui me sont passées entre les mains, j'ai pas trouvé ça incroyable. Hein. Voilà, c'est beaucoup de mécanique des fois pour pas grand chose. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de ça et que ça rende beaucoup service à l'instrument de musique lui-même en fait. Je salue l'excellent Tanguy Kerléo qui est là. Comment est-ce qu'il va le petit Tanguy? Il a l'air de bien aller, si j'en juge par tout ce qui se passe sur les internets, etc. Voilà, je regarde si j'ai oublié des choses. Oui, faut qu'on parle évidemment des prochains événements. Donc, le prochain gros événement, c'est le Paris Guitar Festival de Montrouge, où j'ai bien l'intention de croiser un maximum d'entre vous. Donc, c'est du 28 février au 3 mars. Alors, le 28 février, c'est le jeudi, hein, c'est le concert de Maxime Le Forestier. Mais le festival, le salon lui-même, en tout cas, où j'aurai le plaisir d'être exposant à nouveau, ça commence le vendredi après-midi. Et c'est samedi dimanche, hein, si je regarde les horaires du salon, ils sont ici, voilà, vendredi 1er mars, en plus je vous ai dit n'importe quoi, ah oui ça commence le 28, bon en bref, vendredi, samedi, dimanche, voilà c'est ça, je suis en train de dire n'importe quoi, mais en tout cas allez sur le site web, c'est là où il y a les informations, et vous pouvez aussi aller sur le site web du Paris Guitar Festival. Ils ont mis, je crois bien, voilà, l'interview que j'ai faite de Jean-Michel Proust, donc qui est le directeur du festival. Et là, vous saurez tout sur le festival, qui sont les artistes qui sont programmés, etc. Donc, je compte bien vous voir tous là, tous ceux qui sont parisiens ou proches parisien ou même d'un peu plus loin à Montrouge. Chouette salon, il y a les concerts de démo qui sont gratuits, il y a scène acoustique, scène électrique, il y a les concerts du soir qui sont payants avec une belle programmation, et il y a évidemment le salon des luthiers avec la partie au rez-de-chaussée qui est la partie où moi je serai, qui regroupe tout ce qui est guitare électrique, ampli, cordes, guitare acoustique acier. Et au premier étage, il y a une autre partie du salon qui sont les luthiers classiques. Et c'est aussi au premier étage où il y aura la scène de démo des acoustiques, sachant que les démos électriques, elles, se déroulent dans la salle Blin au sous-sol au moins un. Donc le Paris Guitar Festival, allez-y. Honnêtement, c'est métro Montrouge, donc c'est quasiment mairie de Montrouge, donc c'est quasiment comme si c'était dans Paris. Il faut absolument y aller. Vous êtes obligés. Voilà, je voulais parler de quoi? Oui, il y a Vincent qui m'avait posé quelques questions. Donc, on est dans la partie questions, foire aux questions. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde dans la chatroom si j'en ai oublié. Vincent, tu me demandais, est-ce qu'il y a des fabricants de pédales allemands, hormis Duesenberg? Alors, figure-toi que je savais même pas que Duesenberg fabriquait des pédales. Donc, on va aller voir. Donc, si je me mets ici sur les internets et que je tape Duesenberg pedals, je vais trouver quelque chose. Je ne savais pas, tu vois. Donc, j'ignorais. Et est-ce qu'il y a d'autres fabricants allemands de pédales? Eh bien, tu sais quoi? On va taper German Pedal Builder. Pedal Builder. Et peut-être je regarderai les marques. Et qui c'est qui, hein? Best of German Guitar Pedal Builder. Eh bien, voyons voir. Ah oui, il y a Thomas Blug, effectivement, très bien. Beat Crusher, je ne savais pas que c'était eux. ODR, je pense pas que c'était allemand, ça. Il y a des trucs bizarres là-dedans, là, non? Lélé, je sais pas comment faut dire ça, c'est assez connu. Oko, ça effectivement, ça je connaissais. Diesel, ok. Bon, alors faut croire que l'ODR, c'était allemand à l'origine. Je ne savais pas. Je suis pas parole d'évangile, hein, donc si je connais pas, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Mais en tout cas, j'aurais été bien en peine de citer une marque de pédale comme ça de prime abord. Et si je regarde mon mur de pédale, non, j'ai de la pédale française et de l'américain, du chinois. Des choses comme ça, mais j'ai pas de pédale allemande, ça c'est clair, quoi. L'autre question que tu avais, c'est est-ce que j'ai l'intention de tester l'Astra d'Universal Audio? Alors, on va la chercher ensemble. Universal Audio Astra, c'est la delay, c'est ça, ou c'est la modulation? C'est la modulation, voilà. Alors, c'est vrai que Universal Audio a sorti des... Il y a les trois... Je sais pas si vous les envoyez derrière. Ils sont derrière moi, là. Les pré-amplis qui sont là, je les ai tous. Il y a la Lion FX qui est en train de tourner. Et ils ont fait des pédales d'effet. Ils ont fait le delay, la modulation et la reverb. Est-ce qu'elles sont là? Non, on les voit pas ici. Ça, on s'en fout. Bon, enfin, bref. Pédale, si je vais où? Faut que j'aille où? Pédale UAFX, voilà, elles sont là. Donc ça, c'est les préamplis, ok, très bien. Et où sont les effets? Ok, ah voilà, ils sont là, voilà. Alors, ah oui, à Golden, c'était Reverberator, ça c'est les échos, ça c'est écho et reverb ambiant. Et en dessous, alors, où est-ce qu'elle est, l'Astra? Pourquoi je la vois pas, elle doit être plus bas. Ah, ils ont fait des compresseurs aussi. Eh ben c'est curieux, ils ont pas mis l'Astra. Ou alors c'est moi qui cherche pas bien? J'ai du caca dans les yeux ou quoi? Je trouve pas l'Astra. Si je fais une recherche sur cette page... Astra module machine, ok. Bon, j'ai du caca dans les yeux, je l'avais pas vu, elle est ici. Donc, pour l'instant, c'est pas prévu. Mais si ça se présente, pourquoi pas? Voilà, je serais pas contre. J'avais eu l'occasion de tester la Golden, je crois. Il y avait Olivier, un backstager, qui l'avait amené une fois et j'avais trouvé que ça sonnait vachement bien. Après, Universal Audio, c'est du haut de gamme, c'est cher, voilà. Le hardware est plutôt bien gaulé et ça sonne plutôt très bien, quoi. Donc, il n'y a pas de raison de penser que ce soit pas terrible. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais comme j'ai pas testé, je sais pas trop quoi dire d'autre. Autre question que tu avais, mon petit Vincent, est-ce qu'il serait possible de faire une tournée matos avec les alimentations, une alimentation DESS avec câble, Eh ben, écoute, pourquoi pas? Ça serait tout à fait faisable. D'ailleurs, on va aller jeter un petit coup d'œil au niveau des de DESS pour montrer l'excellent site web de DESS Equipment, si j'arrive à le trouver, évidemment. Qui c'est du matos français d'excellente qualité. Voilà, j'arrive à le charger. Il fait des switchers, il fait des pédaliers, il fait des alimentations, etc. Moi, j'en ai une d'alimentation, une alimentation 5 prises, voilà, je sais plus comment faut dire, enfin voilà, 5 slots, et c'est vachement bien. Alors, je sais que les alimentations, on se dit, ouais, bon, j'ai pas tellement envie de mettre de l'argent, moi, c'est la MP5, voilà, que j'ai, moi. J'ai pas tellement envie de mettre de l'argent dedans, tout ça, parce que y a des petites alimes à 20 balles qui font l'affaire, et en fait, l'alimentation, si vous l'entendez pas, c'est qu'elle fonctionne bien. Ok, si vous l'entendez, c'est qu'il y a un truc qui marche pas. Et avec le matos DESS, c'est du haut de gamme. Alors oui, c'est, vous vous dites, ah ouais, mais c'est 200 balles là que je mets dans un truc qui fait pas de son, mais ça assure que vos pédales sont bien alimentées, etc. Puis vous pouvez après évidemment en prendre des plus grosses si besoin. Alors Antoine Desmet, donc de DESS, que je connais bien parce que je l'ai fait plusieurs fois en interview, on avait évoqué la possibilité de faire une tournée matos avec des boîtes de DI, etc. Donc faut que je voyais avec lui, peut-être on pourrait faire un colis DESS où il y aurait une alimentation, son boîtier DI, et je pense qu'il y avait un autre boîtier aussi qui voulait faire tester, donc je note la suggestion. Et d'ailleurs, on va aller jeter un coup d'œil du côté de la tournée matos, voilà, vous cliquez sur tournée matos sur le site web. Et vous avez ici, donc je rappelle avant qu'on regarde les pédales, la tournée matos, ça vous permet, ça permet aux abonnés de la chaîne guitare de tester du pédale chez eux gratuitement pendant une semaine, et ensuite l'abonné l'envoie à l'abonné suivant, et ainsi de suite. Il y a déjà eu des dizaines et des dizaines de pédales qui ont circulé, voilà, toutes les pédales que vous voyez défiler derrière moi, elles ont fait comme ça parfois plusieurs fois le Tour de France. Il y a parfois des pédales que j'injecte dans la tournée matos que je revois pas avant 3-4 mois. Et si vous allez en haut de cette page, vous avez toujours la liste à jour des pédales qui sont en cours de tournée matos. Donc là, j'en ai ajouté deux aujourd'hui. Il y a la 385 Mark II de Walrus Audio qui vous permet d'avoir le son Filmo Sound sur votre pédalier, et l'excellente Blue OD de chez Mackolson Custom, qui est une pédale française qui va aussi partir en tournée matos. Sinon, il y a les deux Elena, la UAFX, la Lyon, donc c'est le Marshall in a Box de Universal Audio, on en parlait tout à l'heure, la Gladio Cornerstone avec son fameux réglage d'injection du son direct, la Lightspeed qui est un clean boost léger drive qui est super, les deux pédales de chez Dolmen Effect qui sont terribles, il y a la Boost Overdrive Jean-Claude Rapin, la JCR, et la Partout Tetris qui est une série limitée, voilà, qui est une pédale complètement barrée. Et enfin, il y a une excellente pédale, un préampli à lampe made in Japan de chez Peace Hill FX, l'ODS dont j'ai fait l'acquisition et qui plaît beaucoup aux backstagers, et la double overdrive, la Nordwang 83 Drive, qui fonctionne aussi très bien auprès des abonnés. Donc il y a toujours en permanence, là vous voyez, il y en a 11, en général il y a une dizaine de pédales qui font la tournée. Et ce qui me permet d'ailleurs de faire peut-être la soudure vers la page d'abonnement de la chaîne guitare, hein, pour ceux qui l'oublieraient ou qui seraient pas tout à fait au courant de ce qui se passe sur la chaîne guitare. Vous pouvez vous abonner, il y a plusieurs formules. Alors, il y a une formule découverte que j'appelle à 2,99 qui est valable pendant 24 heures, qui vous permet d'accéder à tout le contenu. Donc tout le contenu que j'ai évoqué là depuis le début de l'émission, c'est en accès complet. Faut un peu binge-watcher pour tout regarder, hein. En 24 heures, ça sera impossible, mais au moins vous avez accès à tout. Et vous pouvez cliquer sur s'abonner ici en haut à droite pour avoir les autres formules qui sont plus complètes, notamment la formule mensuelle à 19 euros par mois, qui vous permet d'accéder à tout le contenu, aux discussions sur le forum privé, au tournée matos et la possibilité de venir ici au showroom de la chaîne guitare pour tester du matos, par exemple cet ampli, par exemple la guitare de Yann tant qu'elle est ici ou d'autres choses qui sont ici disponibles. Donc ce sont les quatre avantages de l'abonnement. Vous pouvez prendre donc la formule mensuelle, mois par mois, puis vous résiliez quand vous voulez, évidemment il n'y a pas de période d'engagement, ou vous pouvez prendre un an directement, et à ce moment-là vous avez 2 mois offerts, c'est la formule la plus populaire, et où il y a les mêmes avantages. Voilà, donc comme ça, vous savez à peu près tout. Voilà, bah je crois que ça fait à peu près le tour. Est-ce que j'ai oublié des choses, que vous avez encore des questions? Ah, Vincent nous dit qu'il a fait un morceau avec la Gladio, et Louis, qui est aussi un abonné, qui a dit qu'il avait adoré la Gladio. Et ben moi aussi, je l'ai trouvé vachement bien. C'est une marque italienne, tiens, on parlait des pédales allemandes, Cornerstone, et moi je l'ai trouvé vraiment terrible. Hein. Ça sonne super bien. Il y avait Tanguy qui nous disait que lui, il confirme que le matos TK de DESS, c'est du super matos. Bon, il a intérêt de dire ça puisqu'il est sponsor par Antoine. Mais comme c'est un musicien qui fait plein de dates, etc., c'est plutôt intéressant de savoir qu'il trouve ça bien. Voilà, je vous parlais de Frédéric Schneider. Tiens, je sais pas si tu étais là tout à l'heure pendant que je parlais de toi, mais j'ai passé un petit bout de l'interview. Donc, il est là, le Frédéric Schneider. Donc, cet excellent bassiste qui a plus d'une corde à son arc puisqu'il joue avec des guitaristes électriques. Mais j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il a un album ou qu'il va faire un album avec Philippe Fouquet, qui est un guitariste acoustique que j'avais rencontré à Issoudun l'année dernière, voilà, qui joue de la guitare acoustique et qui de la guitare folk. Et avec voilà, et Frédéric il nous rappelle qu'avec Brice c'était il y a 9 ans. Bah punaise, comme le temps passe vite, hein, ça nous rajeunit pas tout ça fait quand même un petit peu peur. Mais c'est que du bonheur, et puis l'essentiel c'est qu'on soit toujours là pour parler musique et puis surkiffer. Est-ce que j'ai tout dit, j'ai tout vu, j'ai tout couvert? Bah, écoutez, je crois que ça fait à peu près le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Vous mettez le pouce, vous vous abonnez, vous cliquez la cloche, hein, vous connaissez tout le topo. Si vous m'écoutez via le podcast, merci beaucoup de m'avoir accueilli entre vos deux oreilles. Voilà, je vous fais un bel effet de proximité pour la fin. Et bah, sur ces bonnes paroles, on se retrouve donc la semaine prochaine. Je suis en train de réfléchir très vite. Oui, 28 février, on sera juste avant le Paris Guitar Festival. Voilà, ça approche très très bien. Ça approche très bientôt. Le mec, il dit n'importe quoi, il est un peu fatigué. Allez, il est temps d'arrêter le live. Allez, sur ces bonnes paroles, continuez à bien jouer de la guitare et on se reparle très bientôt. Allez, ciao, bye bye.